Deuxième épître à Timothée. Introduction. La première épître à Timothée présente l'assemblée de Dieu comme la maison de Dieu et prescrit son ordre divin selon la pensée de Dieu. Elle reconnaît qu'il y avait déjà des individus qui s'étaient détournés vers un vain Babil, voulant être docteurs de la loi, et qu'il y en avait qui avaient fait naufrage quant à la foi. Nous y sommes aussi avertis que dans les derniers temps, certains apostasieront de la foi. Néanmoins, la masse des chrétiens est vue comme désirant faire face à leurs responsabilités en maintenant l'ordre de la maison de Dieu, et le grand but de l'Esprit dans l'Épître est de donner des instructions sur cet ordre et sur le comportement qui y correspond dans tous les détails de son administration sur la terre. Dans la seconde Épître à Timothée, tout est changé. L'assemblée, comme la maison de Dieu, n'est plus considérée comme maintenue en ordre selon Dieu, mais comme tombée dans le désordre par la défaillance de l'homme. En vue de cette défaillance et de ce désordre, l'apôtre Paul écrit à Timothée pour l'encourager, l'instruire et l'exhorter dans un jour de ruine, et en outre pour l'avertir que le mal continuerait et croîtrait tout au long de la dispensation, se manifestant sous ses pires formes dans les derniers jours. Nous apprenons ainsi, au cours de l'Épître, que l'Évangile était déjà dans l'affliction dans les jours de l'apôtre, que le prédicateur des nations était en prison, et que les saints avaient déserté celui qui leur avait fait connaître la pleine vérité du christianisme, au chapitre 1. De faux docteurs se levaient dans la profession chrétienne. Ceux-ci tenaient des discours vains et profanes et enseignaient des erreurs conduisant à l'impiété, de sorte que la maison de Dieu allait devenir comme une grande maison dans laquelle il y a des vases à honneur associés à des vases à déshonneur. Chapitre 2. En outre, si telle était la condition au commencement, une condition pire suivrait. Dans les derniers jours, des temps fâcheux viendraient où la masse des chrétiens professants serait marquée par la forme de la piété sans en avoir la puissance. Dans un tel état, les hommes mauvais iraient de mal en pis, jusqu'à ce que finalement la profession chrétienne ne supporte pas davantage la saine doctrine. Ainsi, dans la première épître, la masse est encore considérée comme fidèle, bien que des individus aient failli. Dans la seconde épître, la masse a failli. Seuls des individus restent fidèles à leur profession. Chapitres 3 et 4. De plus, l'Épître montre qu'au moment où se levait cette tempête de mal, celui-là même qui avait si souvent vaincu l'ennemi et guidé les saints était sur le point d'être retiré. Il semblait ainsi que l'apôtre allait être repris au moment même où sa présence était des plus nécessaires. Néanmoins, cette combinaison de circonstances, la tempête de mal qui se levait et le retrait de celui qui était le plus à même d'y faire face, est utilisé par l'Esprit de Dieu pour démontrer aux fidèles que pendant toute la période chrétienne et en dehors de toute intervention humaine, Dieu est à même de faire face à toute situation critique qu'il rencontrerait. Bien que proche de son départ et regardant avec confiance à la couronne de justice au jour du Seigneur, l'apôtre ne pouvait ressentir que profondément la chute de ce que son service sous la direction de Dieu avait contribué à établir sur la terre. Il épanche toute la douleur de son cœur aux oreilles de son enfant bien-aimé dans la foi. Ce déchargement du cœur de l'apôtre auprès de Timothée est utilisé par l'Esprit de Dieu de deux manières. Premièrement, il y a là un avertissement adressé à l'avance aux croyants sur le caractère progressif de la corruption de la chrétienté tout au long de la dispensation. Et secondement, cela place devant nous la grandeur de nos ressources en Dieu, en Christ et dans les Écritures, afin que nous soyons soutenus au milieu du mal et que nous marchions selon les pensées de Dieu dans les temps difficiles. L'instruction de l'Épître est présentée dans l'ordre suivant. Premièrement, au chapitre 1, les consolations de l'homme pieux dans un jour de ruine. Deuxièmement, au chapitre 2, le chemin de l'homme pieux dans un jour de ruine. Troisièmement, au chapitre 3, les ressources de l'homme pieux dans les derniers jours. Quatrièmement, au chapitre 4, les directions spéciales pour le service de Dieu au jour où la masse de la profession chrétienne ne supporterait plus la saine doctrine. Chapitre 1. Les consolations de l'homme pieux dans un jour de ruine. L'Esprit de Dieu est sur le point de placer devant nous la ruine de la maison de Dieu et la défaillance croissante de la profession chrétienne tout au long de la dispensation, avec le point culminant du mal dans les derniers jours. Ce terrible tableau de la débâcle sans espoir de la chrétienté avait bien de quoi consterner le cœur le plus vaillant. L'apôtre, avant de décrire la ruine, cherche donc à affermir nos âmes et à fortifier notre confiance en Dieu, en plaçant devant nous nos ressources permanentes en Dieu. Dans ce chapitre, il fait passer devant nous la vie qui est dans le Christ Jésus, verset 1, les choses que Dieu nous a données, versets 6 et 7, le témoignage de notre Seigneur, verset 8, le salut et l'appel de Dieu, versets 9 et 10, le jour de gloire appelé ce jour-là, versets 12 et 18, et les saines paroles de la vérité qu'aucune erreur ne peuvent affecter, verset 13. Verset 1. Citation de l'Écriture. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie qui est dans le Christ Jésus. Fin de citation. Paul commence l'épître en présentant ses titres d'accréditation. Il écrit avec toute l'autorité d'un apôtre de Jésus-Christ. Il est donc bon de lire l'épître comme nous apportant un message de la part de Jésus-Christ par son envoyé. L'apostolat de Paul n'est pas par l'ordination ni par la volonté de l'homme, mais par la volonté de Dieu. En outre, Paul a été envoyé par Jésus-Christ pour servir dans ce monde de mort en ayant en vue l'accomplissement de la promesse de la vie, cette vie qui est vue dans toute sa plénitude, dans le Christ Jésus dans la gloire. Comme si souvent chez l'apôtre Paul, la vie est vue dans sa plénitude en gloire et dans ce sens, elle peut être évoquée comme étant une promesse. Aucune ruine de l'assemblée ne peut toucher cette vie qui est dans le Christ Jésus et qui appartient à tout croyant. Versets 2 à 5. Citation de l'Écriture. À Timothée, mon enfant bien-aimé. Grâce, miséricorde, paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers dès mes ancêtres, avec une conscience pure, de ce que je me souviens si constamment de toi dans mes supplications, nuit et jour, désirant ardemment de te voir, me souvenant de tes larmes, afin que je sois rempli de joie. Me rappelant la foi sincère qui est en toi, et qui a d'abord habité dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice, et, j'en suis persuadé, en toi aussi. Fin de citation. L'apôtre peut s'adresser à Timothée comme à son enfant bien-aimé. Quelle consolation en un jour de ruine qu'il y ait ceux auxquels nous pouvons exprimer sans réserve notre affection et auprès de qui nous pouvons décharger nos cœurs en toute confiance. Deux qualités principales chez Timothée suscitent l'amour et la confiance de Paul. D'abord, il se souvenait de ses larmes. Deuxièmement, il se rappelait sa foi sincère. Les larmes de Timothée prouvaient qu'il était un homme spirituellement profond et affectueux qui ressentait le bas état de ruine de la profession chrétienne. Sa foi sincère démontrait qu'il était capable de s'élever au-dessus de tout le mal dans l'obéissance et la confiance en Dieu. Timothée pouvait avoir une nature timide et être en danger d'être accablé par le mal en train d'entrer dans l'Église. Du fait qu'il était marqué par les larmes et la foi, l'apôtre était encouragé à l'instruire et à l'exhorter, sachant qu'il avait des qualités qui le rendraient capable de répondre à cet appel. Il n'en est pas autrement aujourd'hui. Les instructions de cette épître touchante trouveront peu de réponses à moins qu'il y ait des larmes, qui sont la marque d'un cœur tendre pouvant se lamenter sur les peines du peuple de Dieu, et de la foi, capable d'adopter le chemin de séparation de Dieu au milieu de la ruine. Paul se plaisait à se souvenir dans ses prières de cet homme de larmes et de foi. Quel encouragement pour les saints, quand ils ont le cœur brisé par l'état du peuple de Dieu, que de savoir qu'il y a des saints dévoués et fidèles qui se souviennent d'eux en prière. La fidélité dans un jour d'abandon lie les cœurs ensemble dans les liens de l'amour divin. Versets 6 et 7. Citation de l'Écriture. C'est pourquoi je te rappelle de ranimer le don de grâce de Dieu qui est en toi par l'imposition de mes mains. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et de conseil. Fin de citation. Après avoir exprimé son amour pour Timothée et sa confiance en lui, l'apôtre se met à exhorter, encourager et instruire. D'abord, il l'exhorte à ranimer le don de grâce de Dieu qui lui avait été imparti pour le service du Seigneur. Dans son cas, son don lui avait été conféré par le moyen de l'apôtre. En présence de difficultés, de dangers et d'infidélité générale, quand il semble que le ministère n'a guère de résultats, il y a le danger de penser qu'exercer un don est presque inutile. Nous avons donc besoin d'être avertis contre le danger de ne pas faire valoir son don. Nous devons le ranimer et, dans un jour de ruine, l'employer avec d'autant plus d'insistance. Un peu plus tard, l'apôtre dira « Prêche la parole, insiste en temps et hors de temps. » Chapitre 4, verset 2. Après avoir parlé de dons qui sont propres à un individu, l'apôtre rappelle à Timothée le don qui est commun à tous les croyants. Dieu donne à certains un don spécial pour le ministère de la parole, mais à tous les siens, il donne l'esprit de puissance et d'amour et de conseil, ou de sobre bon sens. Il ne semble guère possible qu'il soit fait référence au Saint-Esprit, quoique le don de l'Esprit soit sous-entendu. Il s'agit plutôt de l'état et de l'esprit du croyant qui résulte de l'œuvre du Saint-Esprit et qui donc participe au caractère de l'Esprit selon ce que dit le Seigneur « Ce qui est né de l'Esprit est Esprit. » Jean 3, verset 6. Par nature, Timothée pouvait être timide et disposé à se mettre en retrait. Mais le Saint-Esprit ne produit pas un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et de conseil. Chez l'homme naturel, nous pouvons trouver la puissance sans l'amour, ou l'amour dégénéré en simple sentimentalité. Avec le chrétien sous le contrôle de l'Esprit, la puissance est combinée à l'amour et l'amour s'exprime avec une sage discrétion, ou sobre bon sens. Ainsi, aussi difficile que soit le jour actuel, le croyant est bien équipé de puissance pour faire la volonté de Dieu, pour exprimer l'amour de Dieu et pour exercer un jugement sobre au milieu de la ruine. Versets 8 à 11. Citation de l'Écriture. N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais prends part aux souffrances de l'Évangile selon la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a appelés d'un saint appel, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et sa propre grâce qui nous a été donnée dans le Christ Jésus avant les temps des siècles, mais qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a annulé la mort et a fait luire la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile, pour lequel moi j'ai été établi prédicateur et apôtre et docteur des nations. Fin de citation. Après nous avoir rappelé l'esprit de sainte hardiesse qui nous a été donné, l'apôtre peut dire immédiatement « N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. » Le témoignage de notre Seigneur est le témoignage à la gloire de Christ, établi comme homme au pouvoir suprême après avoir triomphé sur toute la puissance de Satan. Pierre n'a pas eu honte du témoignage de notre Seigneur quand il a témoigné avec hardiesse disant « Que toute la maison d'Israël donc sache certainement que Dieu a fait et Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. » Acte 2, verset 36. Comme quelqu'un a dit, après que le diable a conduit l'homme à faire le maximum contre Christ, Jésus a été couronné de gloire et d'honneur par-dessus tout. Voilà certainement la victoire. Ainsi, dans ce jour où la ruine est survenue au milieu du peuple de Dieu, et où le triomphe de Satan est tel que Paul est en prison, tandis que les saints l'ont déserté et que le mal augmente, l'apôtre, avec le sentiment profond de toute la débâcle, est soutenu à travers tout est élevé au-dessus de tout parce qu'il réalise que le Seigneur Jésus est dans la place de pouvoir suprême au-dessus de toute l'influence de Satan. Le Seigneur dans la gloire est sa ressource. Il dit donc, Le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié. Le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre et me conservera pour son royaume céleste. Chapitre 4, versets 17 et 18. Nous parlons beaucoup, et à juste titre, de Christ dans son chemin sur la terre, de Christ sur la croix, et du retour de Christ, mais rarement de Christ dans la gloire de Dieu, là où il est actuellement, et c'est pourtant là le témoignage du Seigneur. Le grand témoignage nécessaire pour le temps présent, le témoignage dont nous sommes avertis de ne pas avoir honte. Aussi grande que soit la ruine, quelle que soit la débâcle au milieu du peuple de Dieu, quelles que soient les difficultés que nous pourrions avoir à rencontrer, quelle que soit la désertion des saints, verset 15, la propre volonté de ceux qui s'opposent, chapitre 2, versets 25 et 26, ou la méchanceté de ceux qui cherchent à nous faire du mal, chapitre 4, verset 14, notre ressource infaillible se trouve dans le Seigneur Jésus à la droite de Dieu. Regardant à lui, nous nous élèverons comme l'apôtre au-dessus de toutes les défaillances, que ce soit la nôtre ou celle des autres. Hélas, dans nos difficultés, nous pouvons aggraver les choses en cherchant à les remettre en ordre par nos propres forces, tandis que, si nous nous tournons vers le Seigneur, nous trouverons, comme Paul, que le Seigneur est avec nous pour nous fortifier et nous délivrer de toute mauvaise œuvre. Combien il est donc nécessaire de rendre un témoignage clair à la position actuelle du Seigneur dans la place de suprématie et de pouvoir comme homme dans la gloire, en qui sont toutes les ressources pour nous soutenir dans les jours les plus sombres. En outre, gardons-nous d'avoir honte de ceux qui cherchent hardiment, dans un jour de déclin, à donner au Seigneur sa place. Et soyons prêts à souffrir du mal en tant que de besoin dans le maintien de l'Évangile, sachant que nous pouvons compter sur la puissance de Dieu pour nous soutenir. Après nous avoir avertis de ne pas avoir honte du témoignage du Seigneur, ni de celui qui rend témoignage à sa place suprême comme Seigneur et qui a souffert l'opprobre en tant que témoin, et après nous avoir encouragés à prendre part aux souffrances de l'Évangile, l'apôtre nous rappelle la grandeur de cet Évangile qui est la puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés et appelés. 1 Corinthiens 1, versets 18 et 24. Réaliser la gloire du Seigneur et la grandeur de l'Évangile nous empêchera d'avoir honte du témoignage et nous préparera à souffrir des afflictions pour l'Évangile. Il ressort clairement de ces versets que les deux grands sujets de l'Évangile sont le salut et l'appel. D'une part, l'Évangile proclame le chemin du salut, d'autre part, il nous présente le dessein de Dieu en vue duquel nous sommes sauvés. Nous sommes enclins à limiter l'Évangile à la question importante de notre salut, mais, ce faisant, nous manquons la bénédiction bien plus profonde liée au propos éternel de Dieu, et ainsi nous manquons à entrer dans l'appel céleste. Il est clair que le premier grand but de l'Évangile est notre salut, et Dieu voudrait que le croyant n'ait aucune incertitude quant à ce salut, selon que nous lisons dans ce passage, Il nous a sauvés. L'effet béni de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ est de placer le croyant au-delà du jugement qu'il mérite à cause de ses péchés et de le délivrer du train de ce monde. C'est ainsi que nous lisons, Il s'est donné lui-même pour nos péchés, en sorte qu'il nous retira du présent siècle mauvais. Galates 1, verset 4. Bien que présentement nous soyons effectivement dans le monde, moralement nous ne sommes pas du monde, étant affranchis de sa puissance et de son influence. C'est là la première partie de l'Évangile, et la masse du peuple de Dieu voudrait bien s'en satisfaire. L'Évangile proclame néanmoins de bien plus grandes bénédictions, car il nous parle de l'appel de Dieu. Non seulement Dieu nous a sauvés, mais nous lisons qu'il nous a appelés d'un saint appel. Dans ce passage, l'appel est considéré comme un saint appel. Il en est également parlé comme de l'appel céleste, Hébreux 3, verset 1, et de l'appel en haut, Philippiens 3, verset 14. Le salut nous libère de nos péchés et du monde sur lequel le jugement est suspendu. L'appel nous lie au ciel et à toutes les bénédictions spirituelles que Dieu s'est proposées pour nous dans les lieux célestes en Christ. Par conséquent, les bénédictions de l'appel de Dieu ne sont pas selon nos œuvres, ni selon nos pensées ou nos mérites, mais sont selon son propre dessein et sa propre grâce. Non seulement nos dettes ont toutes été payées, et nous avons été délivrés de l'influence et de la puissance de la scène où ces dettes ont été contractées, mais nous sommes émerveillés d'apprendre que, selon le propos de Dieu, il y a des choses préparées pour ceux qui l'aiment, que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. 1 Corinthiens 2, verset 9. Dans l'appel de Dieu, il nous est révélé le secret de son cœur, et il le fait en déployant devant nous un vaste panorama de bénédictions célestes et en nous assurant s'être proposé pour nous toute cette bénédiction en Christ avant la fondation du monde. Nous apprenons ainsi que, bien avant que nous ayons péché ou contracté une seule dette, Dieu avait un propos établi pour notre bénédiction éternelle. Aucun mal commis par nous, aucune débâcle de l'Église quant à sa responsabilité, ne peuvent altérer le propos de Dieu, de même qu'aucun bien que nous pourrions faire ne peut nous le procurer. Ce propos éternel a été maintenant rendu manifeste par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a annulé la mort et a fait luire la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. En entrant dans la mort, Christ a subi, pour le croyant, le jugement de mort qui pesait sur nous, et nous a ouvert une nouvelle scène de vie et d'incorruptibilité. La mort ne peut plus empêcher le croyant d'entrer dans cette scène de vie et de bénédiction selon le propos de Dieu. Non seulement l'âme passe de la mort à la vie, mais le corps aussi sera revêtu d'incorruptibilité. Ainsi, par l'Évangile, une sphère de vie et d'incorruptibilité est mise en lumière qui ne pourra plus jamais être brouillée par la mort ou la corruption. Par la puissance de l'Esprit, nous pouvons dès maintenant jouir de cette nouvelle scène. De plus, cet évangile nous a été donné à connaître dans toute sa plénitude par un vase spécialement choisi, celui qui est venu à nous comme apôtre de Jésus-Christ pour les nations. Cet évangile est donc venu avec une autorité adéquate par le moyen d'un apôtre qui a parlé par révélation et par inspiration. Verset 12. Citation de l'Écriture. C'est pourquoi aussi je souffre ces choses. Mais je n'ai pas de honte, car je sais qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder ce que je lui ai confié jusqu'à ce jour-là. Fin de citation. De plus, c'est à cause de son fidèle témoignage que Paul a souffert. Ce n'est pas d'avoir mal agi qui l'a conduit à souffrir et à connaître l'opprobre. Son zèle comme héros, envoyé, son dévouement comme apôtre envoyé par Christ, sa fidélité à l'assemblée comme docteur, tout cela lui permettait de dire « C'est pourquoi je souffre ces choses ». La prison était seulement l'une de ces choses que ce fidèle serviteur avait à souffrir. Il y en avait d'autres, plus vivement ressenties par son cœur sensible, car ces choses incluaient la désertion de ceux qu'il aimait en Asie et parmi lesquels il avait si longtemps travaillé. Il souffrait aussi de l'opposition des professants qui s'opposaient à la vérité, chapitre 2, verset 25, de la persécution des hommes méchants, chapitre 3, verset 11 à 13, et de la malice active d'individus professants qui, comme Alexandre, faisaient beaucoup de mal à l'apôtre, chapitre 4, verset 14. Toutefois, voyant qu'il souffrait pour sa fidélité comme serviteur de Jésus-Christ, il peut dire « Je n'ai pas de honte ». De plus, non seulement il n'avait pas de honte, mais il n'était pas abattu, et il ne laissait échapper de ses lèvres aucun mot de colère et de ressentiment à cause de l'injustice du monde et de la désertion, de l'ingratitude et même de l'opposition de la part de beaucoup de chrétiens. Il était élevé au-dessus de toute dépression, de tout ressentiment et de toute rancœur, étant donné qu'il était persuadé que Christ était capable de garder ce qu'il lui avait confié jusqu'à ce jour-là. Quand Christ était outragé, il ne rendait pas l'outrage. Quand il souffrait, il ne menaçait pas, mais se remettait à celui qui juge justement. 1 Pierre 2, verset 23. Dans l'esprit de son maître, et en présence de la souffrance, de la désertion et des insultes, Paul remet toutes choses dans les mains de Christ. Son honneur, sa réputation, son caractère, sa défense, son bonheur, il remet tout à Christ, sachant que, si les saints peuvent l'abandonner et même s'opposer à lui, Christ, lui, ne lui fera jamais défaut. Il est persuadé que Christ est capable de prendre soin de ses intérêts, de défendre son honneur et de lui faire justice de tous les torts dans ce jour-là. À la lumière de ce jour-là, Paul peut passer ce jour-ci en triomphe, malgré son lot d'outrages, de mépris et de honte. Nous pouvons nous étonner de ce qu'il ait été permis que cet apôtre dévoué soit abandonné et soit l'objet d'opposition même de la part des saints. Mais nous ne nous en étonnerons pas dans ce jour-là, quand tous les torts seront redressés et quand toutes les hontes, les souffrances et l'opprobre seront trouvées tournées à louange et à honneur lors de l'apparition de Jésus-Christ. Les fidèles aujourd'hui peuvent bien être qu'une petite minorité insignifiante, comme l'apôtre Paul et les quelques-uns qui lui étaient associés à la fin de sa vie. Toutefois, dans ce jour-là, on se trouvera beaucoup mieux d'avoir été avec les quelques-uns méprisés qu'avec la masse infidèle. La vanité de la chair aime être populaire et avoir de l'importance et se rendre éminente devant le monde et les saints. Mais en vue de ce jour-là, il vaut mieux prendre une position humble dans l'effacement plutôt qu'une position publique en faisant de la publicité de soi, car alors il sera trouvé que plusieurs qui sont les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Nous pouvons souffrir de nos manquements, et cela devrait nous humilier. Toutefois, avec l'exemple de l'apôtre devant nous, nous faisons bien de nous rappeler que, si nous avions marché dans une fidélité absolue, nous aurions souffert davantage. Car il reste vrai que tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Christ Jésus seront persécutés. Chapitre 3, verset 12. Si nous sommes fidèles à la lumière que Dieu nous a donnée, et si nous cherchons à marcher dans la séparation de tout ce qui est un déni de la vérité, nous trouverons, dans notre petite mesure, que nous aurons à rencontrer de la persécution et de l'opposition, et, ce qui est très douloureux, de la part même de nos compagnons chrétiens. Et quand l'épreuve vient, c'est une bonne chose si nous pouvons faire comme Paul, à savoir nous remettre au Seigneur et attendre qu'il prenne notre défense en ce jour-là. Trop souvent nous sommes tourmentés et impatients en présence de torts qui nous sont faits et cherchons à les voir redressés dans ce jour-ci, plutôt que d'attendre ce jour-là. Si, par la foi de nos âmes, la gloire de ce jour-là brille devant nous, au lieu d'être tentés de nous rebeller face aux insultes et aux torts éventuellement permis, nous nous réjouirons et tressaillerons de joie, car, dit le Seigneur, votre récompense sera grande dans les cieux. Matthieu 5, verset 12. Versets 13 et 14. Citation de l'Écriture. Aie un modèle des saintes paroles que tu as entendues de moi, dans la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le bon dépôt, par l'Esprit Saint qui habite en nous. Fin de citation. Note du traducteur, le mot « modèle » a été traduit ci-après par « exemplaire ». Étant donné que ce grand évangile, avec son salut et son appel, est venu à Timothée par une source inspirée, celui-ci est exhorté à avoir un exemplaire des saintes paroles qu'il a entendues de l'apôtre. Les vérités communiquées à Timothée dans de saintes paroles devaient être consignées en ordre dans un exemplaire ou un modèle de sorte qu'il puisse déclarer clairement et expressément ce à quoi il tenait. Ayant cet exemplaire, les vérités transmises par les saintes paroles seraient vues dans leurs relations justes les unes avec les autres. Pour nous, cet exemplaire se trouve dans la parole écrite, et tout spécialement dans les épîtres de Paul. Ainsi, dans l'épître aux Romains, il y a la présentation ordonnée des vérités concernant notre salut, tandis que les autres épîtres de Paul donnent un exemplaire ou un modèle concernant l'assemblée, la venue du Seigneur et d'autres vérités. Dans la chrétienté, cet exemplaire a été largement perdu par l'utilisation de textes isolés sortis de leur contexte. Cet exemplaire, tel qu'il est présenté dans l'Écriture, doit être jalousement gardé. Des hommes sincères peuvent chercher à formuler leurs croyances sous forme de confessions religieuses, d'articles de religion, ou de credo théologique. Ces expédients humains, quelle que soit leur utilité à leur place, sont toujours en dessous de la vérité et ne peuvent prendre la place de l'exemplaire inspiré présenté dans l'Écriture. De plus, le modèle des saintes paroles reçues de la part de l'apôtre ne doit pas être tenu comme un simple credo auquel on peut donner son assentiment, mais il doit être gardé dans la foi et l'amour qui sont dans le Christ Jésus, la personne vivante dont parle la vérité. Avoir un modèle ou un exemplaire des saintes paroles ne suffit pas. Pour que la vérité soit efficace dans nos vies, il faut qu'elle soit gardée dans la foi et l'amour qui sont dans le Christ Jésus. Quand la vérité est présentée pour la première fois à l'âme et qu'elle est reçue avec joie, elle perdra sa fraîcheur si elle n'est pas gardée dans la communion avec le Seigneur. En outre, si la vérité doit être gardée dans la communion avec Christ, ce ne peut être que dans la puissance de l'Esprit Saint. Toute la vérité contenue dans l'exemplaire des saintes paroles qui avait été donnée à Timothée devait donc être gardée par le Saint-Esprit qui habite en nous. Verset 15. Citation de l'Écriture. Tu sais ceci, que tous ceux qui sont en Asie, du nombre desquels sont Phygèle et Hermogène, se sont détournés de moi. Fin de citation. L'immense importance de garder l'exemplaire de la vérité, en communion avec Christ dans la puissance de l'Esprit, est soulignée par le fait solennel que celui, Paul, par qui la vérité avait été révélée, était abandonné par la plus grande partie des saints en Asie. Ceux-là même à qui l'appel céleste et l'ensemble de la vérité chrétienne avaient été révélés s'étaient détournés de Paul. Ce n'est pas que ces saints s'étaient détournés de Christ, ou qu'ils avaient abandonné l'évangile de leur salut, mais la vérité de l'appel céleste enseigné par l'apôtre n'avait pas été gardée en communion avec Christ et dans la puissance de l'Esprit. De là vient qu'ils n'étaient pas prêts à être associés avec lui dans la position de rejet par ce monde qu'implique la pleine vérité du christianisme. Il est dès lors évident que, pour le maintien de la vérité, nous ne pouvons pas faire confiance aux saints les plus éclairés. Ce n'est que dans la mesure où Christ commande les affections dans la puissance de l'Esprit que nous garderons le bon dépôt qui nous a été confié. Versets 16 à 18. Citation de l'Écriture. Le Seigneur fasse miséricorde à la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et n'a point eu honte de ma chaîne, mais, quand il a été à Rome, il m'a cherché très soigneusement et il m'a trouvé. Le Seigneur lui fasse trouver miséricorde de la part du Seigneur dans ce jour-là. Et tu sais mieux que personne combien de services il a rendu à Éphèse. Fin de citation. La référence à Onésiphore et à sa maison est très touchante. Elle prouve que l'indifférence de la masse et sa désertion n'ont pas conduit l'apôtre à oublier l'amour et la bonté d'un individu et de sa famille. Au contraire, la désertion de la masse a rendu l'affection de quelques-uns d'autant plus précieuse. Quand la grande masse attristait le cœur de Paul, il y en avait au moins un dont il pouvait dire « Il m'a souvent consolé ». D'autres pouvaient avoir honte de lui, mais il peut dire de ce frère qu'il n'a point eu honte de ma chaîne. Quand d'autres l'ont déserté, il y en avait encore un dont il peut écrire « Il m'a cherché très soigneusement et il m'a trouvé ». Quand d'autres l'ont négligé, il peut reconnaître avec plaisir que ce frère avait rendu beaucoup de services. Combien cela a dû être heureux pour le cœur de l'apôtre, dans le jour où on le désertait, de réaliser la sympathie et les consolations de Christ exprimées à travers ce frère dévoué. Si Paul n'oubliait pas l'expression de l'amour au jour où il était déserté, le Seigneur ne l'oubliera pas non plus dans ce jour-là, le jour de la gloire à venir.